Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler aujourd'hui du droit de manifester, ainsi que d'ailleurs du droit de rassembler, puisque c'est le même texte. Alors on vit une époque formidable. Lors de la dernière manifestation à Saint-Antonin-Nobleval, on a vu apparaître des conditions dictées par le préfet abracadabrantesque pour la tenue de cette manifestation. Alors qu'il ne s'agissait absolument pas d'une manifestation dans une salle, il est exigé du gel hydroalcoolique, des poubelles et autres fantaisies pour ce qui était en réalité une initiative de plein air. Décidément, la pandémie a bon dos. Cette manifestation d'ampleur exceptionnelle à Saint-Antonin contre le pass sanitaire me donne donc l'occasion de venir sur l'état du droit de manifester en France et, comme je l'ai dit tout à l'heure, également du droit de se rassembler. Ce sont les mêmes exigences. Alors depuis quand faut-il une procédure particulière pour une manifestation ou un rassemblement ? Ça date de quand cette affaire-là ? Eh bien, c'est le président de la République Nicolas Sarkozy qui a sorti une ordonnance par voie d'ordonnance en mars 2012 pour restreindre le droit de manifester à la suite de manifestations de policiers dont certains étaient en uniforme et même armés. Alors vous avez bien entendu, c'est à cause de manifestations de policiers qu'en 2012, Sarkozy a sorti une ordonnance pour restreindre les libertés. Alors il existait un vieux texte qui date de 1935, mais celui-ci était tombé en désuétude, on s'en servait plus, c'est ça que ça veut dire, sur les conditions préalables à l'organisation de manifestations. Alors il faut savoir que dans pas mal de villes en France, cette exigence de procédure préalable n'est heureusement pas respectée, puisqu'on va voir qu'elle est assez tordue. À la campagne, lorsqu'il s'agit de manifestants de la FNSEA, par exemple, il n'y a pas de déclaration préalable. Devinez pourquoi. Donc, on voit que cette décision de 2012 ne tient pas la route, et je vais en dire davantage. Alors, que dit le texte actuel ? L'organisateur doit rédiger une déclaration minimum 3 jours avant donc cette manifestation à remettre à la mairie avec tout un ensemble de précisions, comme par exemple le parcours à donner. Le préfet, à partir de là, peut interdire par voie d'arrêté la manifestation, mais il faut qu'il trouve un motif. Il peut aussi exiger des mesures particulières. Donc c'est une déclaration à ne pas confondre avec une demande d'autorisation, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle, et donc si le préfet ne se manifeste pas, de fait, la manifestation est possible. Je viens de dire possible, je n'ai pas dit autorisé. Alors l'ordonnance fait toutefois exception, une exception de demande de dépôt de déclaration de manifestation pour les usages locaux. Je suis donc au regret de vous dire que dans le département, les préfets, depuis quelque temps, ne savent pas que le 1er mai a lieu tous les 1er mai, et cela depuis plus d'un siècle. On a eu le même coup également dans l'Aveyron. Alors d'abord, il faudrait peut-être revenir sur c'est quoi une manifestation, puisqu'il n'y a pas véritablement de définition précise. C'est donc une bonne question. Certains croient voir des manifestants partout. La distribution de tracts sur la voie publique, par exemple, est du domaine de la loi sur la presse et n'est pas en elle-même considérée comme une manifestation. Si je le dis, c'est parce qu'on a eu quelques difficultés parfois à se faire comprendre sur le sujet de distribution de tracts. Ce n'est pas une manifestation. Alors pourquoi avoir particulièrement créé ces déclarations de manifestation ? Alors le prétexte à interdiction de manifester, donc le plus courant, est le risque de trouble à l'ordre public. Alors ce risque de trouble à l'ordre public, le problème c'est que avec ou sans déclaration de manifestation, même en faisant autre chose, ce motif est utilisable. Donc on ne voit pas bien pourquoi on le ressortirait spécifiquement pour les déclarations. Le trouble à l'ordre public, c'est quelque chose qui peut être utilisé en toutes circonstances. Alors le prétexte, c'est aussi de pouvoir gérer la circulation. Ce que les forces de police ne font pas de toute façon dans la plupart des manifestations. Ça a d'ailleurs été le cas à Saint-Antonin, où quelques copains des services d'ordre qu'on avait créés, qui n'ont évidemment pas l'autorité, ont été un peu malmenés par ici et par là, par des automobilistes pressés qui ne voulaient rien savoir. Heureusement que la grande majorité d'entre eux étaient compatissants, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est le prétexte de la gestion de la circulation. La plupart du cas, les policiers ou les gendarmes ne font pas la circulation à l'occasion des manifestations. Alors pourquoi déclarer, alors que tout le monde sait, évidemment, que l'appel à la violence, l'appel à la haine, la destruction de biens sont interdites en toutes circonstances et pas spécifiquement pour une manifestation. Donc c'est bien la dissuasion de réaliser des manifs qui est recherchée. Comme par exemple pour le 9 septembre à Saint-Antonin, où il a fallu pas moins de 4 déclarations successives pour obtenir, non pas une autorisation, mais une non-interdiction. Donc on voit bien que là, c'est une stratégie pour fatiguer, pour dissuader, finalement, d'organiser une manif. Alors notre histoire en France nous révèle un peu ce qu'il en est, finalement, du sort de ces manifestations et d'où vient la violence. Je vais un petit peu loin, mais tout de même, peu de gens le savent. Pendant la guerre d'Algérie, en 1962, le préfet Papon, de triste mémoire, s'est servi de l'interdiction de manifester pour assassiner 9 personnes, 9 manifestants, au métro Charonne. On peut dire que l'interdiction a servi à couvrir une violence meurtrière qui n'a d'ailleurs jamais donné lieu à condamnation ultérieure. Ce même préfet Papon avait fait massacrer 200 Algériens qui manifestaient à Paris pour la paix en 1961, et si j'en parle, c'est que finalement ce phénomène, enfin ce drame, est également fort méconnu. Alors plus proche de nous, de nombreuses violences physiques à l'encontre des gilets jaunes et des milliers d'arrestations démesurées montrent une dérive inquiétante des autorités dans le domaine. Pendant ce mouvement, il y a eu 2800 blessés, dont 30 éborgnés. Cela a valu d'ailleurs que les Nations Unies, le Défenseur des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, s'en sont officiellement inquiétés. Un seul exemple, pour prendre un exemple d'aujourd'hui à Toulouse, les forces de l'ordre confisquent les bouteilles d'eau en plastique au prétexte qu'elles pourraient constituer des armes par destination. Ils confisquent même dans les sacs, les doses de collyre sont confisquées. C'est-à-dire qu'ils vont bien au-delà de ce qu'ils sont en droit de faire, évidemment sur ordre, pour dissuader de manifester et créer un climat délétère. Alors, climat délétère, c'est pour en venir aussi aux manipulations médiatiques qui ne sont pas en reste. Qui est au courant que le soi-disant incendie du célèbre restaurant Le Fouquet's à Paris est en réalité un incendie, si l'on peut dire, extérieur, puisqu'il s'agit de l'incendie du store roulant de l'établissement, pas à l'intérieur, qui a été provoqué par les tirs de grenades lacrymogènes. Fort peu de gens le savent. Autre exemple, la soi-disant attaque de l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital des enfants, alors évidemment ça scandalise à juste raison, réalisée par des individus avant l'arrivée de la manifestation, ils étaient bien avant, ils étaient un kilomètre avant, qui ne passaient d'ailleurs pas par cette rue, cette dite manifestation, et sans intervention des forces de l'ordre, alors que les casseurs étaient pourtant bien visibles. Alors pour terminer, quel risque pour les manifestants ? Il faut distinguer les manifestations interdites des manifestations non déclarées. Ce n'est pas la même chose en ce qui concerne les conséquences. Une manifestation non déclarée n'est pas, en tout cas pour ce seul motif, motif à sanction. Quel que soit le statut de la manifestation, il est prudent d'avoir une pièce d'identité sur soi, de vérifier qu'on n'a pas conservé de canif, de ciseaux dans son sac, puisque l'imagination est, je sais pas si elle est au pouvoir, en tout cas dans ce domaine-là, on peut dire qu'elle l'est, et de rester à côté de gens qui vous connaissent. C'est normal, tout ça c'est pour notre bien. Et oui, notre bien, vous ne l'avez pas deviné. Je vous laisse, à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.